Journalisme chrétien dit.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 7 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord les titres. En Tanzanie, 19 morts dans le crash d'un avion de ligne qui s'est abîmé dans le lac Victoria. Et en Guinée, c'est plus de 24 morts que l'on déplore dans une collision entre un bus transportant des étudiants et un camion. Au Cameroun, des milliers de partisans du président Paul Biya célèbrent ses 40 ans au pouvoir. Au Sénégal, le journaliste Pape Alé Niang en garde à vue pour une information nuisible à la sécurité, selon son avocat. Ici aux États-Unis, élection de mi-mandat cruciale demain, mardi. En Égypte, coup d'envoi de la COP27 hier à Sharm el-Cheikh. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. La Tanzanie en deuil après la mort de 19 passagers d'un avion qui s'apprêtait à atterrir à Bukoba dans le nord-ouest du pays. Il avait à son bord 43 personnes et les autorités mettent en cause le mauvais temps. Le point avec Eric Manirakidza.
La compagnie Precision Air, la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, a indiqué que 24 personnes avaient survécu à l'accident. Elles ont été transportées à l'hôpital. L'avion s'est écrasé dans l'eau à environ 100 mètres de l'aéroport, a déclaré le commandant de la police régionale. Des vidéos diffusées sur les médias locaux montraient l'appareil en grande partie submergé alors que les sauveteurs, dont des pêcheurs, tentaient de récupérer des survivants. Les secouristes essayaient de le soulever à l'aide de câbles et de grues. Le premier ministre s'est rendu sur les lieux, déclarant à la foule massée à l'aéroport de Bukoba « Tous les Tanzaniens sont avec vous en deuil ». La présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également adressé ses condoléances, tout comme le secrétaire général de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Peter Matuki.
En Guinée, plus de 24 personnes sont mortes et d'autres blessées dimanche dans l'ouest du pays, dans une collision entre un car transportant des étudiants et un camion, a annoncé le gouvernement dans un nouveau bilan. L'accident est survenu à Sougueta, un village près de Kinya, une ville à 130 km à l'est de la capitale Conakry, que le car avait quitté pour aller à Farana dans le sud-ouest, une localité qui abrite plusieurs établissements scolaires et universitaires. Des accidents meurtriers de la route surviennent régulièrement en Guinée et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules, ainsi qu'à l'imprudence des conducteurs. Au Cameroun, plusieurs milliers de partisans du président Paul Biya ont célébré hier dimanche à Yaoundé ses 40 ans à la tête de ce pays. Monsieur Biya lui-même n'était pas présent. Le point avec Mohamed Humfa.
Sur l'esplanade de l'hôtel de ville de la capitale, à l'appel de son tout-puissant parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, plusieurs milliers de partisans ont crié et dansé au rythme d'une sono, diffusant des chansons en l'honneur du chef de l'État. Les militants et sympathisants du RDPC se sont massés, vêtus de chemises, robes, casquettes et écharpes, aux couleurs vives et à l'effigie de Paul Biya, 89 ans. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents, dont le Premier ministre Joseph Dion Nguté. 40 ans à la tête de la nation, ça ne s'usurpe pas, ça se gagne et ça se mérite. Ce n'est pas à la portée de qui veut, mais plutôt de qui peut, a lancé à l'ouverture des festivités Jean-Marie Abouna, maire du premier arrondissement de Yaoundé et hôte des célébrations. Paul Biya a toujours bien géré le pays malgré des périodes difficiles. S'enthousiasmait dans la foule un commerçant âgé de 36 ans et militant du RDPC depuis 17 ans. Samedi, sur Facebook, son principal opposant Maurice Kamto, rival malheureux en 2018, a vu dans ce 40e anniversaire un piétinement arrogant des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques dans un pays où règne une corruption systématique et généralisée selon lui.
Au Sénégal, le journaliste Pape Alignang, qui dirige le site d'information privé Dakar Matin, fort critique du pouvoir, a été placé en garde à vue dimanche à Dakar par la police, qui lui reproche 3 infractions. Selon son avocat, Siré Clédor Lee, la police lui reproche d'avoir porté à la connaissance du public une information dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale, et des actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles. La 3e infraction est relative à une violation du secret professionnel, a ajouté Maître Lee, qui a dénoncé une montagne d'hérésie, des intimidations et une tentative de museler la presse. Le confrère Pape Alignang est célèbre au Sénégal pour ses chroniques régulières sur l'actualité. Dans un discours radio-télévisé à l'occasion du 47e anniversaire de la marche verte vers le Sahara occidental, le roi du Maroc, Mohamed VI, a vanté dimanche soir le projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui doit approvisionner l'Afrique de l'Ouest et l'Europe sur fond de vive rivalité avec l'Algérie voisine, premier exportateur africain de gaz naturel. Un mémorandum d'entente sur un tel projet a été signé à la mi-septembre à Rabat avec la CEDEAO. La Mauritanie et le Sénégal participent également à ce projet pour la réalisation duquel aucun calendrier n'a été établi. L'Algérie, qui a rompu ses relations avec le Maroc, a privé Rabat de son gaz en fermant en octobre le gazoduc Maghreb-Europe acheminant du gaz algérien à l'Espagne et transitant par le Maroc.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élection cruciale de mi-mandat demain, mardi, pour le contrôle du Congrès américain. Elles sont tout aussi décisives pour la présidence du démocrate Joe Biden que pour l'avenir politique de son prédécesseur républicain Donald Trump, qui pourrait se présenter encore en 2024. Les deux dirigeants s'affronteront ce lundi par meeting interposé pour le sprint final de la campagne. L'ensemble de la Chambre des représentants est à renouveler, ainsi que le tiers du Sénat, toute une série de postes d'élus locaux qui décident des politiques de leur État en matière d'avortement ou de régulation environnementale, notamment, sont également en jeu. Après une campagne acharnée, centrée sur l'inflation, les Républicains se montrent de plus en plus confiants dans leur chance de priver Joe Biden de ses majorités au Congrès ce 8 novembre. La chef du Parti républicain promet que les candidats conservateurs respecteront le résultat des urnes tout en se montrant de son côté confiante d'une victoire de son parti John Lindon.
Rona McDaniel a tenu à rassurer alors que plusieurs candidats républicains n'ont pas dit clairement s'ils allaient accepter les résultats sortis des urnes. Elle a dit qu'ils accepteront les résultats des scrutins, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Les candidats républicains aux deux chambres à Washington, ainsi qu'à tous les scrutins locaux, notamment pour élire des gouverneurs des États, veulent être certains que la course est juste et transparente, et nous accepterons alors les résultats, a assuré Rona McDaniel sur la chaîne CNN. La présidente du Parti républicain, Rona McDaniel, s'est également dite confiante dans le bon élan des conservateurs pour faire basculer le Congrès à droite. Les démocrates du président Joe Biden ont une courte majorité à la Chambre des représentants et une seule voix de majorité, celle de la vice-présidente Kamala Harris au Sénat. Les sondages indiquent un scrutin serré dans plusieurs États pivots. Samedi en Pennsylvanie, lors de meetings de campagne concurrents, Joe Biden et son prédécesseur Barack Obama ont exhorté leurs électeurs à se mobiliser pour défendre la démocratie. Face à eux, l'ancien président Donald Trump a pressé ses partisans d'aller voter aux législatives pour provoquer une vague géante républicaine et sauver le rêve américain.
La conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh, en Égypte, avec une nouvelle mise en garde contre une accélération du réchauffement climatique. Pour la première fois, la question des pertes et dommages sera officiellement au menu des discussions. Le point avec Abdourahman Dia.
Les 8 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées, s'est alarmée dimanche l'Organisation météorologique mondiale dans un rapport publié à l'occasion de l'ouverture du grand rassemblement mondial annuel sur le changement climatique. Alors que la COP27 commence, notre planète envoie un signal de détresse, a commenté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un message vidéo aux participants évoquant une chronique du chaos climatique. Jusqu'au 18 novembre, les délégués de près de 200 pays vont tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement. Les impacts du changement climatique se multiplient, comme les catastrophes qui ont frappé la planète en 2020, inondations historiques au Pakistan, canicules à répétition en Europe, ouragans, incendies, sécheresses, désastres dont les coûts se chiffrent en dizaines de milliards de dollars et pour lesquels les pays du Sud réclament des dédommagements financiers. La promesse des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide pour réduire leurs émissions et se préparer aux impacts n'est pas tenue.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon Barrick Gold, la plus grande mine d'or du Mali, Loulo Gounkoto a livré 162 000 onces au troisième trimestre 2022. La compagnie canadienne précise qu'il s'agit d'une baisse de 7% en glissement trimestriel et de 5% par rapport à la même période l'année dernière. La mine a livré 509 000 onces d'or au cours des trois premiers trimestres. En 2021, elle avait livré 700 000 onces. Le géant suisse Glencore a été condamné par la justice britannique à payer plus de 313 millions de dollars pour des faits de corruption en Afrique. Une enquête a révélé que l'entreprise de négoce des matières premières a versé des pots de vin de plus de 28 millions de dollars pour un accès préférentiel au pétrole au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et au Soudan du Sud. L'Arabie Saoudite a lancé sa première marque de véhicules électriques en partenariat avec l'entreprise chinoise Foxconn, indique l'agence de presse officielle SPA, précisant que CIR devrait créer 30 000 emplois. Les véhicules devraient être disponibles en 2025. En avril, l'Arabie Saoudite avait annoncé un accord avec la société américaine Lucid Motors pour l'achat de voitures électriques sur plusieurs années.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football au programme et d'abord chez les dames, on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue africaine des champions.
Oui, compétition qui se dispute actuellement au Maroc et son représentant. Asfa sera bien dans le dernier carré après avoir dominé le groupe A, 3 victoires en 3 matchs. Mais pour l'entraîneur Mohamed Amine Alioua, cette performance ne place pas son équipe favorite. Les filles militaires affronteront en demi-finale les Nigérianes de Baelsa qui ont arraché leur qualification après avoir battu 3-0 les Égyptiennes de Wadi Degla. L'autre demi mettra aux prises les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, tenantes du titre, aux Tanzaniennes de Simba Queens.
Chez les messieurs, la CAF a donné la date des tirages au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF.
Et ce sera le mercredi 16 novembre prochain au Caire en Égypte, et si en Ligue des Champions. Les 16 clubs concernés sont déjà connus. Il faudra attendre ce mercredi pour être fixé sur ceux de la Coupe de la Confédération à l'issue des matchs retour du tour de cadrage. À noter que dans chaque compétition, les équipes seront réparties dans 4 groupes de 4.
Direction le Togo avec les résultats de la première journée du championnat.
Oui, et Ange a fait forte sensation en allant battre Saraspor de Bafilo 3-1. Le club de Nontien partage la première place avec Boélessou qui a dominé l'AS Togo Port 2-0, Tambo FC d'Attaque Pabé vainqueur 2-1 d'Espoir de Sévier et l'AS OTR qui a surpris en temps 2 de Lomé. Pour les autres résultats, notons entre autres le nul 1-1 entre Unisport et l'ASK. Même score pour le match Gomido de Palimé, Dito de Lomé.
Football toujours, la Coupe du Monde au Qatar, c'est dans 2 semaines et certaines sélections s'activent déjà.
Tout à fait. Le cas de la Tunisie qui rassemble déjà ses joueurs. Le sélectionneur Janel Kadri a retenu ses joueurs évoluant uniquement en Afrique et au Moyen-Orient pour un stage d'une semaine en Arabie Saoudite. Rappelons qu'au Qatar, les aigles de Qatar logés dans la poule D affronteront le Danemark, l'Australie et la France.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Paul Biya, le président du Cameroun, a passé hier 40 ans au pouvoir. C'est en effet le 6 novembre 1982 qu'il avait prêté serment quelques jours après la démission de son prédécesseur Ahmadou Ahidjo. Ce 40e anniversaire a donné lieu à de nombreuses festivités organisées par les militants de son parti, le RDPC. Mais le bilan des 40 ans de régime de Paul Biya est mitigé, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Au lieu dit poste central à Yaoundé, des jeunes gens exposent des vêtements le long d'un mur. On les appelle au Cameroun les vendeurs à la sauvette. Apollinaire Biandeux est l'un de ces débrouillards. Il dit n'avoir tiré aucun profit des 40 ans de Paul Biya au pouvoir.
Le 40e anniversaire du président, 40 ans de noir, 40 ans de souffrance, nous les jeunes, le bilan est négatif hein, pour nous. Parce que nous, on a un régime, on est vieillant, on a un régime sans emploi, sans rien. Donc ceux qui profitent peuvent profiter.
Johnson, quant à lui, est un déplacé interne de la crise qui sévit depuis 2016 dans les deux régions anglophones du pays. Le jeune homme de 20 ans ne se réjouit pas non plus des 40 ans de régime du président Paul Biya.
Nous, comme moi, comme un enfant de Bamenda, on m'a rien fait. Il y a beaucoup plus de 500 000 enfants là-bas, sans acte de naissance, sans carte d'identité. Je suis parmi eux, je suis un enfant de la rue maintenant.
Hier, de nombreux militants du RDPC ont pris part à un grand meeting à l'esplanade de l'hôtel de ville à Yaoundé. Ils ont célébré les 40 ans de Paul Biya au pouvoir, marqués par de grands progrès, disent-ils.
Il y a la paix au Cameroun. Parce que quand on entend tout ce qui se passe dans les autres pays, nous sommes heureux.
40 ans après, on a vu, il y avait l'histoire du multipartisme. Le président de la République, il nous a conseillé autour. Depuis à notre génération, là, on n'a jamais vécu la carte, mais on a déjà vécu au Cameroun.
Avant ces 40 ans, même les universités publiques, on connaissait juste Yaoundé 1. 2 n'existait même pas. Maintenant, il y a beaucoup de réalisations parce que maintenant, le président de la République a mis des emplois aux jeunes pour servir. Il y a des concours qui sortent au même moment, à tout moment. Il y a aussi des recrutements.
Pour le secrétaire général, adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Owona, les idéaux du président Paul Biya restent d'actualité 40 ans après.
Il y a encore à faire. On nous a reproché des choses. On doit les corriger. Nous devons continuer de travailler dans la voie que le chef de l'État, Paul Biya, a travaillé. Le renouveau se renouvelle par les valeurs qu'il est en train de promouvoir, qui sont des valeurs de démocratie, des valeurs de justice sociale, des valeurs de prospérité, des valeurs éternelles.
Sur les réseaux sociaux, certains hommes politiques se sont aussi prononcés sur cet anniversaire, synonyme de deuil national, a posté sur sa page Facebook Aloïs Parfum Voum, président du Social Démocratie Front, dans le 4e arrondissement à Yaoundé, un parti de l'opposition. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Bénin, le président Patrice Talon a promulgué la loi portant modification du code de procédure pénale sur l'exécution des peines. Désormais, le président béninois a le pouvoir de prendre un décret et de suspendre une peine en exécution. Les acteurs politiques y voient une prise en otage du pouvoir judiciaire et appellent le gouvernement à la retenue, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
En plus de la grâce présidentielle et de l'amnistie, la version modifiée du code de procédure pénale aborde la question de la suspension de l'exécution des peines. Selon les dispositions de la loi, c'est le bénéficiaire qui sollicite cette remise en liberté anticipée adressée au chef de l'État. pour l'acteur politique Noureddin Saka Saleh, cette modification du code de procédure pénale n'avait pas sa raison d'être. Pour lui, si c'est un moyen de libérer les détenus politiques, le gouvernement a d'autres possibilités.
S'il faut penser immédiatement aux détenus politiques, c'est une fuite en avant. C'est une espèce de lâcheté. Il vaut mieux plutôt que le pouvoir reconnaisse sa responsabilité pleine et entière dans le caractère abusif des détentions. Donc s'il faut en arriver à renforcer les pouvoirs du chef de l'État dans le sens d'un traitement subjectif des peines, puisque la plupart de ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des détenus qui n'ont pas été condamnés, ils n'ont pas été jugés. Donc pour moi, ils ont été arbitrairement et abusivement détenus.
Pour d'autres, cette loi est une ruse de plus pour avoir des détenus politiques à ciel ouvert. Dans le rang de la population, les avis sont divergents. Pendant que certains y voient une bonne action du gouvernement, d'autres rient au piège à éviter à tout prix.
C'est une bonne initiative qui a été mise en place et qui reste toujours salutaire.
On n'a pas besoin d'envoyer une loi code de procédure pénale pour être votée, non. La constitution du 11 décembre 90 avait tout prévu. Qu'on cesse de tromper le peuple béninois.
L'acteur politique Noureddin Saka Saleh va plus loin et note à travers cette loi l'immixtion de l'exécutif dans la liberté du pouvoir judiciaire. Il s'étonne du silence coupable des magistrats depuis le vote et la promulgation de cette loi.
Pourquoi c'est toujours au président, au seul président de la République qui dispose déjà de la grâce présidentielle, qui est déjà un peu trop renforcée au sein du Conseil supérieur de la magistrature, qui est devenu beaucoup plus politique et administratif que judiciaire, pourquoi c'est toujours au seul président que revient le suprême pouvoir de décider de la libération ou de la condamnation entre griffes des personnes?
Mais pour le porte-parole du gouvernement, en élaborant ce projet de loi, le gouvernement n'a aucunement pensé à s'arroger tous les pouvoirs ou à prendre la place du juge des libertés et de la détention. Wilfred Léandre Roubédi est le porte-parole du gouvernement.
En élaborant son projet de loi, a pris tellement de précautions justement pour éviter l'éviction. L'éviction aurait consisté à dire telle personne est poursuivie par la justice, que le gouvernement demande à la justice arrêter de poursuivre cette personne. Dans le cas d'espèce, la justice fait son travail comme dans tous les autres cas. La peine est prononcée. Elle est devenue définitive. Il n'y a plus de recours possible. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle serait possible pour le chef de l'État et pour le surveiller de décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue. De nombreux observateurs pensent que les premiers à bénéficier de cette loi seront l'ex-ministre de la Justice Ricky Amadougou et le constitutionnaliste Joël Frédéric Aïva, arrêté au cours de la période des élections présidentielles de 2021. De Cotonou, Jeannette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Gabon, le secteur porte désormais les ambitions de diversification économique engagées par le gouvernement, bousculées par les scandales à répétition de trafic illicite des essences de la forêt. L'État a interdit l'exportation des grumes brutes. Un hub industriel local s'occupe depuis plus d'une décennie de la transformation du bois sur un site qui accueille plus de 80 entreprises. Il s'agit bien sûr de la zone économique spéciale, fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement gabonais et la société singapourienne Olam. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
À 27 km de Libreville, la zone économique d'un coq. Des administrations et des usines de transformation avec un rythme de production soutenu. En une dizaine d'années, le pays s'est hissé au premier rang africain des exportateurs de contreplaqué. Un travail qui se poursuit dans ce cluster bois où des centaines d'ouvriers sont à la tâche. Angontan est responsable qualité et certification de la zone spéciale économique de Libreville.
Cela permet naturellement d'employer le plus grand nombre de Gabonais. Et en plus de ça, les sous-traitants gabonais qui ont trouvé leur compte, parce que s'il y a des emplois directs, il va y avoir des emplois indirects.
Résultat d'une politique d'industrialisation de la foresterie, un marché de meubles made in Gabon a vu le jour dans cette zone économique. Sarah Nideou, gérante du showroom, explique.
Le bois est local, il est tracé, il est certifié. Travaillons avec du bois qui est bien sec, ce qui permet la longévité du meuble une fois fini.
Dans un contexte de forte exigence de bois certifié au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Europe, c'est toute la filière de transformation du bois local qui s'est mise au pas. Cette société forestière du sud-est du pays contrôle toutes ses activités. Steve Badinga est en charge du travail de monitoring qui part de l'abattage à l'attribution d'un numéro sur chaque coupe opérée.
On met sur la souche un numéro forestier. Ce numéro forestier nous permet de faire une traçabilité de ce bois-là. Donc on aura un lien direct entre le numéro d'inventaire et le numéro forestier que le commis d'abattage vient de mentionner sur la souche.
Exonération d'impôts sur les dividendes, sur la propriété foncière, sur les sociétés pendant 10 ans et la TVA pendant 25 ans. Autant de mesures incluses dans le plan de diversification que propose le gouvernement gabonais. C'est un investissement de près de 2 milliards de dollars. Quels sont les résultats? Écoutons Paul Dany Menga Bekale, responsable commercial.
Cela a permis de créer des industries, des sociétés qui absorbent à ce jour près de 1 million de mètres cubes de bois sur l'année. Ce qui n'est pas négligeable.
Longtemps négligé au profit du pétrole, l'industrie du bois est devenue l'axe sur lequel se structurent désormais les bases de la politique de diversification gabonaise à travers la construction de chaînes de valeur locales. Selon le gouvernement, le secteur a généré à ce jour 8 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects. Ismaël Obiozé pour VOA Afrique, Libreville.
VOA Afrique en direct de Washington.
La Fondation des États-Unis impose une séparation entre l'Église et l'État, mais certains politiciens et autres dirigeants défendent l'idée de donner aux Américains un pays dirigé par une morale basée sur le christianisme. Un reportage de Caroline Pressouti de la VOA, le récit est de Lionel Gahima.
Je suis le pasteur Mark Burns et je suis ici pour déclarer la guerre à tous les démocrates racistes.
C'est le cri du cœur des nationalistes chrétiens avant les élections de mi-mandat. Beaucoup de républicains chrétiens blancs participant à la dite tournée pour réveiller l'Amérique. Diane Bollinger est une participante de la Pennsylvanie.
On a fait sortir Dieu de notre pays et voilà ce qu'on obtient. Nous devons le remettre en place.
La tournée a couvert 16 villes ces 18 derniers mois avec des milliers de participants et toujours à guichet fermé. L'organisateur et la vedette de cette tournée est le général à la retraite Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale de l'ancien président Donald Trump. Sur la séparation de l'Église et de l'État, il s'est entretenu en exclusivité avec la VOA.
Je pense que c'est un grand argument constitutionnel. Est-ce que c'est dans la Constitution quelque part?
Le premier amendement de la Constitution américaine établit une nette séparation entre l'Église et l'État. Le général Flynn n'est pas d'accord.
Ils aiment leur foi et ils aiment leur pays. Alors, qu'y a-t-il de mal à cela?
Le révérend Michael Curry, évêque principal de l'Église épiscopale, n'est pas de cet avis.
Non, je crois en la diffusion du christianisme, en la diffusion de l'Évangile. Mais ce n'est pas la même chose que l'Amérique soit une nation chrétienne. L'Amérique doit être une nation où les chrétiens, les juifs, les musulmans, les sikhs et les athées peuvent tous apprendre à vivre ensemble.
Selon une enquête de Pew Research, près de la moitié de personnes interrogées pensent que les États-Unis devraient être une nation chrétienne. Mais 3 personnes sur 4 ne veulent pas que les églises soutiennent les candidats ou discutent de politique. Le révérend Max Burns trouve cela ridicule.
Quand les gens disent que les pasteurs ne peuvent pas prêcher la politique depuis la chair, c'est ridicule.
De retour sur la scène, il a demandé aux pasteurs de prêcher un serment avant chaque élection et d'enseigner aux chrétiens leur devoir sacré de voter pour les candidats pieux. Ce qui, selon l'avocate Stephanie Robbins, est probablement illégal.
Il va y avoir une opinion sur le plus pieux des candidats. Et cela va dépendre de l'Église. Probablement, ils savent de qui ils parlent et ça va dépasser les bornes à un moment donné.
Un groupe appelé « Chrétiens contre le nationalisme chrétien » se lève contre cette idéologie.
Le nationalisme chrétien dit que le christianisme doit être privilégié par rapport aux autres religions
et cela entre en conflit avec notre appel à aimer nos voisins comme nous-mêmes.
Les organisateurs de cette tournée affirment que les élections de mi-mandat ne vont pas arrêter les rassemblements et ils promettent de continuer à promouvoir les candidats chrétiens jusqu'aux élections de 2024.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.